Alors, Pierre-Yves, l'actrice et mannequin Kate Upton a dénoncé Paul Marciano. C'est le cofondateur de la marque de vêtements Guess. Et guess what? Le titre a baissé considérablement en bourse.
Oh, Paul, beau jeu de mots. OK. Deux tweets, effectivement, elle a dit. Dans le fond, je peux pas croire qu'une compagnie qui est aussi emblématique pour les femmes, dans le fond, emploie encore Paul Marciano. MeToo hashtag. Tu comprends? Donc, évidemment, elle l'accuse de harcèlement psychologique et sexuel. Donc, ce qui arrive là-dessus, il y a un site qui en a parlé. Elle en a fait ça. Il y a d'autres témoignages potentiels. Donc, c'est une situation dramatique pour une marque parce que tu as un individu qui plombe une marque à cause d'un comportement d'un individu individuellement, mais qui avait beaucoup de pouvoir. Donc, la marque aujourd'hui, 17,75% de perte en bourse. Quand on parle de perte près de 18% en bourse pour un titre, c'est énorme. Normalement, c'est le rendement de 2 ans. Et c'est une entreprise qui avait déjà des pertes au niveau comptable parce qu'on avait eu, évidemment, des dévaluations d'actifs. Ajoute ça à ça. Ça fait penser à ce qu'on fait signer maintenant dans les entreprises. Depuis quelques années, on fait ça. On fait signer un code de conduite. Et les gens doivent dire, si j'ai un comportement qui nuit à l'entreprise ou à sa réputation, tu sais que c'est un motif de congédiement. Donc maintenant, on prend les devants là-dedans. On signe ça d'avance. Donc effectivement, c'est un motif. Juste une accusation et un comportement qui aurait nui à la réputation est suffisant pour licencier quelqu'un. Mais côté marque, imagine le boycott qu'il pourrait avoir. Si tous les top modèles boycottent Guess, si les femmes au complet, les hommes font ça, ça tue la marque. Une saison et ça met la marque en faillite, là. Donc, imagine l'impact, parce qu'on parle d'une entreprise qui, pour un trimestre, fait quand même en vente 528 millions de ventes. Donc, imagine.
Ouais. Les résultats de Mastercard, mais pas seulement Mastercard, les autres cartes de crédit aussi, ça va bien, même quand les ventes ne vont pas bien.
Oui, parce que ce qu'il faut dans le modèle d'affaires de Mastercard, des Visa et autres, c'est qu'ils font une cote. Hein? On sait que c'est les banques qui font le prêt, mais ce sont les cartes, les compagnies de cartes qui font la transaction. Donc, pour chaque transaction, on fait un rendement. Donc, on fait environ 1,5% en moyenne, moins sur les grandes entreprises, plus sur les petites entreprises, et on fait de la marge. Mais quand on y pense, peu importe que le commerçant fasse une marge ou non, du profit ou non, Mastercard se paye sur le prix de la transaction. Donc, Mastercard, que le commerce ferme, soit remplacé par un autre, il n'y a pas de problème, tant qu'il y a des ventes qui se font et qu'ils utilisent leur carte. Donc, imagine comment c'est une entreprise qui est rentable. Donc, quand on va voir dans les états financiers, on se rend compte que Mastercard, là, a fait seulement 227 millions pour un trimestre de bénéfices nets parce que, bon, il y avait une charge fiscale spéciale, mais normalement, pour une année, on va parler de cette année de 31% de marge et l'an passé, 38%, incluant ces pertes-là. Donc, imagines-tu 31% de marge quand tu es un intermédiaire qui ne prend pas de risque d'affaires autre que le système, évidemment.
Mais c'est pas les compagnies de cartes de crédit qui prennent le risque.
Non, mais quand tu t'en vas à l'épicerie, tu sais, puis que tu fais une transaction, tout l'inventaire, tout ça, la marge est tellement faible de l'épicerie au bout du compte. Des fois, c'est 5%, 3%, 2%. Mmh. Et t'as Mastercard qui, là-dessus, va te chercher une marge importante. Donc, c'est pas pour rien que les commerçants vous disent « Ah, on aimerait mieux que vous payiez pas par carte de crédit ou on n'accepte pas les paiements par carte de crédit. » Parce que ça bouffe de la marge gratuitement, rapidement, et le client ne s'en rend pas compte, mais implicitement, il nuit à l'entreprise qu'il veut encourager
même quand
en payant par carte de crédit.
Même, d'ailleurs, quand ta facture est très basse.
Oui, même quand la facture est très basse, Paul, t'as raison. Parce que c'est en pourcentage.
Ben oui.
Il n'y a pas de réduction. Donc, puis plus tu es un petit commerçant, plus tu payes. Ce qui est arrivé un peu avec Walmart, t'avais exactement la même chose. Walmart s'est battu avec Visa parce que Walmart disait, je veux pas payer autant de frais. Puis Visa disait, attends une minute, là, vous payez dans les moins gros frais de l'industrie. Mais comme Walmart est gros, a pu négocier.
Croissance des revenus fulgurante pour Facebook.
Ouais. Pendant qu'on cherche tous les moyens, Paul, pour sauver la télévision, les journaux, la radio, Facebook, ça bouffe de plus en plus la tarte publicitaire mondiale. Quand on parle de financer les médias écrits, la presse, mais en même temps, d'un autre côté, même nos gouvernements qui cherchent des solutions font de plus en plus de publicité sur Facebook. On voit qu'il y a une sortie des capitaux du Canada. Et dans le moment, Facebook a une stratégie de filtrer un peu notre fil de nouvelles, c'est-à-dire avoir du meilleur contenu, mais c'est pas vraiment pour nous qu'on fait ça. Parce qu'on veut plus un utilisateur passif, quelqu'un qui regarde des vidéos plates là et qui fait juste regarder des vidéos passivement. On veut un consommateur impliqué, qui interagit avec des amis, qui utilise Facebook pour faire des transactions, qui est impliqué. Pourquoi? Parce que il faut que l'utilisateur ait le goût d'aller sur Facebook pour faire ses transactions quotidiennes, parce qu'il va revenir. Là, dans le moment, on a 1,4 milliard d'utilisateurs quotidiens, Paul, qui vont tous les jours sur Facebook, et tu as des gens qui y vont en moyenne, mensuellement au moins une fois. On parle de plus de 2 milliards de personnes. Donc, ces gens-là, c'est un bassin important. Et Facebook veut que toute notre vie passe par là. Et quand on regarde les états financiers, Paul, on se rend compte que 89 % des revenus publicitaires, Paul, passent par le téléphone cellulaire.
Ah oui, ben ça, c'est... Oui, oui. Je veux te conter quelque chose. Parce que ça touche exactement ce qui m'intrigue depuis un certain temps. Tu disais, Facebook, de plus en plus, veut devenir aussi un centre incontournable pour faire des achats, des choses.
Oui.
Deux choses. Je cherche deux produits. Ben, tiens, on va te dire, le premier, c'était un haut-parleur que je cherchais, un tout petit haut-parleur. Puis je le trouve à un endroit. Je m'en vais sur leur site. Ils ont une bannière, c'est marqué « Produits à vendre », l'inventaire et tout ça. Le lendemain, c'est disparu. Alors, je refais l'adresse Internet du fournisseur de ce petit haut-parleur. Et alors, j'écris audio.com. Et ça m'envoie immédiatement sur une page d'accueil de Facebook.
De la compagnie.
Leur site est disparu. Mais si je veux en savoir plus long, si je veux commander, si je veux avoir accès à leurs produits, faut que je m'inscrive à Facebook et je ne suis pas inscrit.
Tu n'es pas sur Facebook.
Je te jure. Hein?
Tu es un des quelques milliards dans le monde qui ne sont pas sur Facebook.
Non, mais j'ai des faux comptes là, à mon nom, mais c'est pas moi. Okay. Et ça m'a frappé. Écoute, il arrive un autre achat que je veux faire. Il faut que je passe par la porte d'entrée, la page d'accueil de Facebook qui m'invite à m'inscrire si je veux continuer plus loin. Là, je l'apprends à me demander, je dis, coudonc, le fournisseur en question a-tu une entente avec Facebook qui fait que, avant de consommer mon produit, c'est-à-dire de l'acheter, de le commander, ben, il faut que tu passes par Facebook.
Ben, c'est peut-être parce que lui, sa page passe par là. Tu sais, l'affaire, c'est que maintenant, avec l'intelligence artificielle, mais surtout avec les recueils de bases de données, on sait ce que tu fais partout. Donc, si tu vas dans Google faire quelque chose, dans Facebook, après ça, tu vas avoir une image. Exemple, j'ai fait une recherche pour un article sur une Subaru. Donc, je marque Subaru, Enter. Dans Facebook, j'ai eu des annonces de voitures pendant 2 semaines. Là. Donc, ça et là, ça nous génère, tu vois, pour un trimestre, là, 13 milliards de revenus, Paul. Pour un trimestre, 13 milliards de revenus et 4,3 milliards de bénéfices. Donc, la marge nette est de 33% chez Facebook. Même si on est en croissance encore. Écoute, on va aller chercher, là, on va chercher au niveau du ratio, le ratio price-earning, donc dans le fond, co-bénéfice, c'est que les gens maintenant payent entre 30 et 40 fois le prix de l'action, donc 37 environ,
ouais, ouais.
37 fois le bénéfice par action. Ça veut dire qu'on prévoit encore de la croissance, mais on est loin de la croissance anticipée au début quand ce ratio-là était à 100. Donc, dans le fond, ce que les gens ils croient maintenant, c'est qu'il y a encore une croissance, mais beaucoup moins soutenue, mais ils croient que c'est une entreprise du même titre que d'autres entreprises, des blue chips qui vont générer des profits et des revenus pendant des années et des années de façon continue. Et Facebook, le danger, c'est de perdre des utilisateurs. Parce qu'en Amérique du Nord, là, Paul, on plafonne. On n'est plus capable d'aller chercher des nouveaux utilisateurs. On est passé quotidiennement de 185 millions au troisième trimestre à 184 millions. Donc, c'est dans le reste du monde qu'on va chercher des nouveaux gens. Mais en Amérique du Nord, on plafonne. On n'est pas capable d'attirer les poloutes de ce monde s'impliquer dans Facebook.
Mais là, si je le veux, mon petit haut-parleur, oui, t'es obligé d'y aller.
Ou t'as fait un ami sur Facebook qui va y aller pour toi.
Non, oui, exactement, qui va y aller pour moi. T'as tout compris. Si je veux résister dans mon village.